Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité en ce matin est Louis-Marie Mauduit, des responsables Génération Z Bretagne. Et il est avec nous en direct ce matin. Il a fait la route pour venir jusqu'à nous depuis la région de Vannes, je crois. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Alors nous allons parler ce matin de la campagne de Marion Maréchal, campagne donc de reconquête, reconquête qui gagne d'ailleurs un demi-point dans les sondages. On va parler aussi de ce qui fait la différence finalement entre votre programme et celui du Rassemblement National. J'allais dire que ce sont des programmes cousins.
Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est proche. Marion Maréchal dit même parfois qu'on est complémentaires, mais on a des différences, je crois, sur la stratégie et sur certaines idées. Par exemple, sur les idées, je pense qu'en économie, on n'a pas les mêmes positions. Le Rassemblement National est peut-être beaucoup plus étatiste. Par exemple, récemment, sur le sujet du conditionnement du RSA, au fait de travailler quelques heures, eh bien, par semaine, nous, à Reconquête, nous y sommes favorables, parce que nous pensons que c'est un moyen d'inciter au retour à l'emploi, de donner envie de travailler, et peut-être aussi de désinciter à vivre des aides, même si c'est évidemment difficile de vivre des aides, mais en tout cas, à encourager à aller vers le retour à l'emploi. Donc ça, c'est par exemple une différence sur le plan économique. Et c'est vrai que nous souhaitons aussi moins d'administration et... comment dire, aller vers vers la réduction du déficit, puisqu'actuellement, on en parle beaucoup en ce moment.
Un programme plus libéral, on pourrait le traduire ainsi?
En quelque sorte, oui. Après, je pense que le mot libéralisme est un peu galvaudé, parce que finalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des libéraux en France. Mais en tout cas, nous souhaitons moins d'impôts et moins de dépenses.
Voilà, de l'État. Moins d'impôts, moins de dépenses.
C'est l'un des sujets de différence, il y en a d'autres.
Mais... Voilà, alors pour les grands sujets. Alors, effectivement, vous avez parlé de la dette de la France, hein, 5,5% du PIB. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse à Reconquête et plus généralement chez les jeunes de Génération Z, la dette qui s'accumule et qu'il faudra bien payer un jour?
Alors, effectivement, je crois que là, je viens en tant que représentant de GZ Bretagne et je pense que donc du coup je dois parler un petit peu aussi sous un angle de la jeunesse et je pense que ce qui doit caractériser la réflexion d'un jeune en politique, ça doit être aussi le temps long. Parce que bien sûr, nous sommes là pour encore un moment, nous aurons des enfants, etc. Donc on doit envisager le temps long. Et donc effectivement, ça fait 50 ans qu'on vote des budgets en déficit. Si on en vote encore pendant 50 ans, je pense que la retraite, elle ne sera pas à 64 ans, elle sera peut-être encore plus tard. Ou alors il y aura plus de cotisations, ou alors il y en aura peut-être plus. Donc c'est quand même une difficulté. C'est quand même un vrai sujet, oui.
Voilà le sujet de la jeunesse qui est inquiète pour son avenir. Il y a beaucoup de sujets dans cette campagne européenne, parce qu'on va parler évidemment de l'Europe et de la campagne qui a démarré. Donc avec des grands thèmes, l'agriculture, la pêche, la souveraineté énergétique. Là aussi, il y a des paris à faire sur l'avenir. Comment la jeunesse que vous représentez, la jeunesse Génération Z, donc Reconquête, comment vous représentez l'avenir à travers ces secteurs, l'agriculture, la pêche, la souveraineté également énergétique, c'est des sujets importants pour l'avenir, pour demain.
Alors pour nous, ce qui est très important, je crois que c'est l'indépendance, la souveraineté, c'est-à-dire que on doit pouvoir vivre de nos produits, dans notre pays, et donc nous sommes des fervents défenseurs, je crois, des agriculteurs, de la ruralité, et donc nous ne sommes pas pour le tout libre-échange, et je crois que c'est un sujet fondamental pour les agriculteurs, ils l'ont beaucoup fait remarquer dernièrement. Je pense que Monsieur Macron n'a pas été moteur sur ce sujet, n'a pas cherché vraiment à mettre fin au traité de libre-échange, donc il a donné mandat à la commission de négocier. Pardon, je reviens à votre question, c'était l'agriculture, la pêche,
voilà,
aussi,
la pêche,
l'énergie.
Également, et la souveraineté énergétique.
Alors, la souveraineté énergétique, nous avons toujours dit qu'effectivement, nous sommes des fervents défenseurs du nucléaire, parce que pour nous, c'est ce qui permet à la France, effectivement, d'être beaucoup plus performante que les autres pays, ou en tout cas d'avoir été jusque-là beaucoup plus performante que les autres pays sur le plan énergétique, d'avoir une vraie indépendance, parce que c'est une énergie qui d'abord est propre, et puis c'est aussi une énergie qui nous permet de produire chez nous, sans les contraintes, par exemple, de l'éolien qui est intermittent et qui dégrade nos paysages.
Alors, avec les écologistes en face de vous qui ont un discours contraire en disant voilà, il faut arrêter le nucléaire aujourd'hui, c'est dangereux, on a les déchets, etc. Il faut aller vers une énergie plus verte, décarbonée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors, nous leur répondons que, en fait, les énergies renouvelables, elles sont souvent. Elles produisent une quantité d'énergie qui est vraiment infime par rapport au nombre de constructions d'éoliennes qu'on doit faire, ne serait-ce que pour compenser un réacteur. Et s'ils veulent aller vers l'électrique, comment vont-ils faire avec l'éolien ? Ça me paraît insurmontable. Et en plus, la dépense énergétique, comme on va vers toujours plus de numérique, etc., elle ne va faire qu'exploser. Mmh. Et donc, en fait, il faut une énergie qui soit puissante et qui puisse permettre, avec une centrale, de faire 500 000 foyers, 1 million de foyers. Ça, c'est possible avec le nucléaire. C'est évidemment pas possible avec des parcs éoliens qui prennent des surfaces énormes et qui prennent sur des surfaces agricoles, tout comme l'éolien, sauf si l'éolien est bien pensé, à la limite, il est construit sur des préaux ou sur des granges, etc. Mais autrement, on doit pas le prendre sur des terres agricoles. Mmh. Je pense les écologistes très utopistes sur ce sujet.
Avec aussi un coût de l'énergie aujourd'hui, on le voit, la facture d'électricité a explosé, pour ne citer qu'elle, dans un contexte d'inflation, de difficulté des Français à se nourrir, à se loger, à payer justement leurs factures, et en l'occurrence les factures d'électricité. Est-ce que, malgré le côté libéral de votre programme, il y a aussi un côté social, un volet social, une Europe sociale aussi, parce qu'on parle de l'Europe sociale.
Alors, nous, l'aspect social, c'est en fait pour faire en sorte que le travail rémunère davantage. Ce qu'a dit beaucoup Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, c'est qu'en fait, en France, on a une trop grande différence entre le brut et le net. Ce qui fait qu'un employeur, pour payer quelqu'un 1 500 euros, il doit quand même débourser, je crois, 2 500. Ce qui fait un gap énorme. Et donc, en fait, nous, on aimerait faire des économies qui permettent de réduire les cotisations salariales afin que les salariés ils aient un pouvoir d'achat qui soit nettement plus important grâce justement à la réduction de la différence entre le brut et le net.
Mmh. Avec aussi des jeunes, là ça s'adresse à votre génération, les jeunes aujourd'hui qui sont très inquiets pour leur avenir et qui sont très inquiets aussi pour les études, avec des difficultés aujourd'hui pour pouvoir se loger quand on est étudiant à Rennes ou à Brest ou même à Lorient, avec ces difficultés pour se loger, pour se nourrir. Est-ce que là aussi il y aura une réforme à penser un jour ou l'autre pour mieux vivre quand on est étudiants ?
Alors, nous sommes très favorables au système de l'apprentissage, d'autant plus que les études se prolongent toujours plus. On fait tous plus d'études, sans pour autant que le niveau culturel augmente. Je crois qu'il y a eu récemment d'ailleurs une étude sur la lecture par les jeunes qui est très basse. Donc, bon, il y a tout un tas de réformes aussi sur le scolaire et sur l'université
19 minutes par jour de lecture pour les jeunes, voilà, contre plusieurs heures devant les écrans.
Et c'est vrai que du coup, je crois qu'on compense peut-être le fait que le niveau du bac se soit beaucoup réduit par le fait du prolongement sans arrêt des études, mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut bien qu'on rentre dans le monde du travail, et je crois que c'est aussi ça qui nous fait prendre de l'expérience et apprendre beaucoup de choses. Et donc, je pense que l'apprentissage est un excellent système pour cela, et nous voulons continuer de le promouvoir chez Reconquête. Après, nous ne voulons pas être dans un système du toujours plus d'aide. Nous préférons réduire les impôts qu'augmenter les aides, si vous voulez.
Voilà, avoir là aussi un delta acceptable. On parle aussi de grands sujets au niveau de l'Europe, avec l'Europe de la défense. On a une guerre aujourd'hui à nos portes, la guerre en Ukraine. Déjà, faut-il continuer à aider l'Ukraine ?
Alors, ça dépend de quelle manière. En fait, donc Marion Maréchal l'a dit, hein, nous sommes du côté de l'Ukraine parce que nous sommes évidemment opposés, nous condamnons l'agression de l'Ukraine par la Russie parce que nous défendons les frontières et nous défendons un pays qui voit ses frontières bannies. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par contre, nous refusons de rentrer dans une logique d'escalade. Là, on trouve quand même assez dangereux peut-être les propos de M. Macron. Et puis, s'il y a menace pour les autres pays européens, je crois que raison de plus pour que nous gardions notre industrie de la défense, déjà pour nous. Il paraît que nous n'avons que 3 jours à peine de munitions en cas de guerre pour ce qui est de la France. Donc, du coup, sur la question de l'industrie,
effectivement.
Nous devons d'abord nous protéger, nous. En revanche, Marion Maréchal l'a dit aussi, nous voulons évidemment aider l'Ukraine sur le plan humanitaire, sur le plan de la reconstruction. Et Nicolas Bay a voté le texte, donc Nicolas Bay qui est député européen Reconquête, a voté le texte sur l'aide financière dernièrement au Parlement européen. Donc, ça dépend quel type d'aide en fait.
Voilà, une
donc aide, pas d'aide militaire.
Pas d'aide militaire,
mais de l'aide financière.
Avec quand même ces propos, vous les rappeliez d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol. On a vu évidemment la réaction des pays européens qui se sont désolidarisés de cette proposition et surtout la réaction de la Russie où Vladimir Poutine a brandi l'arme nucléaire une fois encore.
Oui, c'est pour ça que là, nous devons faire attention quand même au risque d'escalade. Nous devons aussi être crédibles sur le plan diplomatique. Pour ça, y a les questions de souveraineté, d'indépendance, on en a un petit peu parlé. La défense doit être forte et il faut que nous continuions et que nous allons beaucoup plus loin encore dans les investissements sur les infrastructures militaires et sur le personnel militaire.
Alors, investissement dans le personnel militaire et dans les infrastructures, dans l'armement, mais la diplomatie, aujourd'hui, on a une diplomatie européenne qui est très diverse. On a l'impression que la France a été très timorée en termes de diplomatie. Est-ce que c'est votre point de vue ?
Oui, je crois. Je crois qu'on pouvait attendre de la France qu'elle ait une position... parce que, évidemment, avant l'invasion de l'Ukraine, l'OTAN était pas si légitime, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup remise en cause, et à Reconquête, nous faisions partie des gens qui la remettaient en cause.
Le président de la République avait dit d'ailleurs que l'OTAN était en mort clinique, hein, c'était le terme employé.
Et donc la situation aujourd'hui, elle a bien changé, et c'est vrai que, du coup, on aurait pu profiter de cette période-là, de cette déclaration aussi du président pour avoir une voix qui serait peut-être davantage différente de celle des Américains, qui serait peut-être davantage une voix indépendante comme du temps de De Gaulle, comme du temps aussi même de Jacques Chirac, hein, on pense à l'Irak, qui traite un petit peu équitablement entre les deux... entre les deux États.
Voilà. Une souveraineté, en tout cas, une plus grande souveraineté des nations. On peut parler d'une Europe des nations dans ce cas-là.
Oui, parce que je crois qu'il ne faut pas aller aussi dans la surenchère européenne. L'Union, je pense que les Français n'ont jamais vraiment voulu une Union européenne fédérale comme Ursula von der Leyen ou comme Valérie Ayer ou M. Macron semblent nous la défendre à demi-mot hein, quand même. Donc nous sommes pour une Europe des nations parce que d'abord les Français ont fait ce choix-là en 2005. Nous n'irons pas plus loin que les traités. Parfois, l'UE est allé beaucoup plus loin que les traités. Et c'est dommageable. Et sur ce qui est de l'Europe de la défense, de la coopération militaire, oui, mais la France doit garder sa position d'État indépendant. Je pense que les militaires veulent se battre pour la France et défendre les intérêts de la France. Récemment, le CEMA a fait une interview dans Le Figaro. Il parle des intérêts de la France. Il parle pas de l'Europe, parce que peut-être qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts en Europe. Et ça, il faut aussi le prendre en compte.
Coopération militaire, mais pas une armée européenne.
Voilà, c'est cela.
On va parler aussi d'un sujet qui revient souvent hein, dans le programme de Reconquête, à savoir l'immigration. Aujourd'hui, le Parlement européen examine la proposition de réforme du pacte sur la migration et l'asile, qui prévoit d'ailleurs de durcir l'accueil des migrants en Europe. Est-ce que c'est tardif à vos yeux ?
Alors, c'est plus que tardif. Et puis, par ailleurs, ce texte, il est très insuffisant et il est même, sur certains côtés, inquiétant. On a une immigration qui est actuellement qui est massive. Ça pose beaucoup d'enjeux identitaires parce que parfois, on ne se sent plus chez nous. Parce que, la France est un pays de racines gréco-latines, chrétiennes. On a un patrimoine, on a une culture, on a une gastronomie, etc. Et donc, Parfois, on se sent menacé aussi, mais aussi une crise évidemment sécuritaire. Et on voit bien que je pense que les Français s'en rendent compte qu'il y a de plus en plus de difficultés et qu'il y a un lien quand même entre immigration et sécurité.
On va vers le grand remplacement dont parle souvent Éric Zemmour.
Oui, ben nous sommes de cet avis. C'est-à-dire que, effectivement, si une population arrive massivement en centaines de milliers de personnes par an, eh bien, nécessairement, on arrive à une situation où une culture qui est au départ minoritaire, donc peut-être anciennement, quand on pouvait accueillir l'immigration italienne, qui était déjà beaucoup plus. Les Italiens sont évidemment déjà beaucoup plus proches que nous, mais de fait, ils arrivaient provisoirement, parfois, ils repartaient dans leur pays pour travailler, et puis souvent, il y avait une démarche d'assimilation. Et aujourd'hui, on n'a plus ça, et naturellement, on ne peut pas avoir ça, on ne peut pas en vouloir, hein. C'est juste que si on arrive en masse, si un groupe arrive massivement dans un autre groupe, nécessairement, le groupe qui arrive va peut-être s'imposer à l'autre, surtout s'il a une culture qu'il assume pleinement. Je pense ici notamment à l'Algérie, qui assume peut-être beaucoup plus son identité par rapport aux Français, où il y a peut-être une crise aussi de l'identité qui fait qu'il y a peut-être de moins en moins de Français ou de Bretons qui se sentent Bretons ou de Français qui se sentent Français. Et donc voilà.
Voilà une crise identitaire et une crise culturelle aussi, on le voit. Vous parliez d'assimilation tout à l'heure ou d'intégration. Est-ce qu'aujourd'hui on a des populations qui finalement ne souhaitent pas s'intégrer et sont plutôt dans un repli communautariste?
Bah, je crois que malheureusement, oui, c'est quand même la difficulté. On peut le voir dans des villes en Bretagne. Là, j'étais 3 ans à Brest, où il y a des quartiers où c'est quand même assez identifié au niveau des commerces, au niveau de la population et aussi malheureusement au niveau de la délinquance. On a quand même... à Paris, on avait des chiffres du ministère de l'Intérieur sur les délits, les délits en matière de d'attouchement sexuel, etc., qui sont très présents du côté des personnes étrangères. Et donc, je pense que le travail du ministère de l'Intérieur, c'est effectivement de travailler à la fermeture des frontières, comme ça se fait dans n'importe quel pays en dehors de l'Europe de l'Ouest, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas, et c'est pas du tout tabou, parce qu'en tout cas ça ne devrait pas l'être, parce que je pense pas que du temps de général de Gaulle on avait une immigration massive et qui n'était pas forcément une immigration de travail aussi, parce qu'il y a aussi cette difficulté où on a un chômage beaucoup plus important, je crois 2 fois plus important chez les personnes immigrées que chez les autres. Et donc ça pose des difficultés parce que du coup, comme il y a une distribution des cotisants vers les non-cotisants, forcément, ça pose aussi des difficultés économiques.
Est-ce qu'il faut que l'Europe soit, alors on parlait de ce texte tout à l'heure qui doit être discuté au Parlement européen, est-ce qu'il faut que l'Europe soit plus ferme sur l'accueil des migrants et ceux qui sont sur notre territoire, qu'est-ce qu'on en fait? On les partage dans les différents pays européens, il faut une meilleure harmonisation à ce niveau-là?
Alors, en fait, je dirais qu'il ne faut pas répartir, il faut empêcher déjà de les faire venir sur le territoire. Pour ça, à l'ECR, nous défendons l'idée d'un blocus naval. Giorgia Meloni l'avait demandé pendant sa campagne, mais elle a été empêchée donc, par M. Macron et le chancelier allemand. Et ça, c'est ce que nous défendons à l'ECR. Donc l'ECR, c'est le groupe hein, dans lequel est inscrit Reconquête. De manière générale, en France, eh bien, nous souhaitons en fait que traiter les demandes d'asile. Donc déjà, l'asile, ça doit être très très limité. Hein, ça devrait être quelques centaines de personnes par an pour les combattants de la liberté, en fait, et pas des dizaines de milliers. Et puis, nous souhaitons aussi que, bien évidemment, ceux qui ne travaillent pas, eh bien, puissent répartir relativement rapidement, pas forcément reconduire les visas. Il s'agit aussi évidemment d'expulser tous ceux qui posent problème, donc les fichiers pour islamisme, les délinquants ou les criminels à l'issue de leur peine. Voilà la politique que nous voulons mener. Et au niveau européen, et bah bien sûr, là il y a de la coopération à faire. Je parlais de blocus naval, mais de manière générale, évidemment, c'est un problème qui est européen parce que nous souhaitons que Paris reste Paris, mais nous souhaitons aussi que Rome reste Rome, ou que Berlin reste Berlin et que Budapest reste Budapest. Et donc le problème se pose pour l'ensemble de l'Europe. Et donc je pense qu'avec des frontières qui sont tenues, avec les douanes, avec Frontex avec aussi nos propres douanes, eh bien, nous pouvons empêcher la submersion aussi de l'Europe.
Est-ce qu'il faut travailler avec des pays d'où viennent les migrants, pays souvent en difficultés économiques, parfois en guerre? Est-ce qu'il faut là aussi avoir une politique diplomatique, finalement, alors qu'elle soit française ou qu'elle soit européenne? Est-ce qu'il faut une forme de coopération renforcée pour que, finalement, il y ait un moindre flux migratoire?
Oui, tout à fait. C'est ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que il y a une contrainte et il y a aussi du donnant. C'est-à-dire que quand on fait un traité avec un autre pays, comme l'Égypte, comme la Libye, etc., ce qui peut être intéressant, c'est effectivement peut-être de conditionner l'aide au développement à la coopération sur le plan douanier. Et puis, Mélanie l'a fait avec la Tunisie, donc nos alliés italiens l'ont fait avec la Tunisie, ils ont fait un pacte avec eux. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça a bien marché, peut-être que vous avez. Ça a très bien marché sur le plan de la réduction du nombre d'immigrés venant effectivement de Tunisie. Voilà, il s'agit que la Tunisie fasse la police, parce qu'effectivement, si on fait la police avant la traversée en Méditerranée, on évite aussi des drames en mer. Je pense que l'immigration n'est ni une bonne chose, ni pour l'Europe, ni pour l'Afrique. C'était le cardinal Sarah qui est un cardinal béninois, je crois, qui avait des propos là-dessus, qui disait que c'était un drame pour l'Afrique, parce qu'effectivement, toutes les personnes qui prennent la démarche de partir, eh bien, partent. Et puis, c'est aussi essentiellement des hommes qui partent. Donc, il y a aussi un dérèglement de ce point de vue.
Finalement, l'Afrique
crée un déracinement aussi qui est peut-être assez dramatique.
Oui, pardon. Finalement, l'Afrique perd ses forces vives.
Oui, c'est peut-être cela, oui. Et sachant que quand elles arrivent chez nous, ce sont aussi des gens qui sont déracinés et donc qui ne peuvent pas espérer l'Eldorado que peut-être ils espèrent en venant chez nous.
Alors, il y a aussi la sécurité, qui est un thème important. La sécurité avec des menaces terroristes qui planent, on l'a encore vu ces dernières heures, ne serait-ce que sur les compétitions de football. Les Jeux Olympiques, c'est dans quelques semaines maintenant, ça va venir très vite. Est-ce que vous êtes inquiet sur le fait, justement, qu'aujourd'hui, on a des problèmes de sécurité en France? Alors, j'entends sécurité face au terrorisme, mais on pourra élargir tout à l'heure aussi à la chose intérieure. Justement, est-ce qu'il faut très vite avoir une réaction vis-à-vis de ces menaces terroristes? Est-ce qu'il faut aussi donner les moyens aux services, on pense aux services de renseignement?
Oui, bien sûr. Là, il y a effectivement beaucoup de moyens à mettre dans les services de renseignement. Et puis, il faut aussi que, bien sûr, on fasse tout le travail nécessaire au niveau des obligations de quitter le territoire français. On a vu que dans les attentats qu'on a subis malheureusement en France ces dernières années, une grande partie de ces auteurs, de ces assassins, se trouvaient parmi les flux migratoires, parce que ça sert de terreau, ça sert évidemment pour passer, ça ne nous permet pas de pouvoir traiter la demande et d'étudier les dossiers comme ça pourrait se faire si toutes les demandes se faisaient depuis les consulats à l'étranger. Et donc, il y a un vrai sujet. D'abord, il faut expulser effectivement les OQTF, il faut expulser... les criminels après leur peine et les délinquants. Sur le terrorisme, il y a beaucoup de choses à faire et il y a de vrais enjeux. On voit que l'insécurité explose.
La menace radicale islamiste est présente en France. On sait que Reconquête en a fait un peu son cheval de bataille. Est-ce que là aussi, il faut discuter avec le monde musulman qui est important en France? Est-ce qu'il faut discuter? Est-ce qu'il faut essayer aussi de faire en sorte que le monde musulman, quelque part, ait une position claire vis-à-vis des islamistes radicaux?
Il faut bien évidemment discuter. Et puis, il faut aussi poser des exigences. Éric Zemmour en parlait beaucoup pendant la campagne. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement, il faut poser des exigences en matière de formation des imams. Il faut veiller à ce que ce ne soit pas des financements étrangers, notamment d'État qui promeut une vision de l'islam qui pose problème. Et puis, il faut être aussi clair sur les mots. C'est-à-dire qu'il y a parfois des préceptes dans l'islam qui rentrent parfois en contradiction avec la France, avec les valeurs françaises. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. Quand certains préceptes mettent en difficulté la vision qu'on a, nous, en France, de la relation entre les hommes et les femmes, etc., il faut savoir poser les exigences nécessaires. Et donc, ça implique qu'il doit y avoir peut-être un travail de fait aussi du côté de l'islam en France.
Alors, sans transition, il y a aussi la question de la sécurité. On terminera là-dessus. Il nous reste, allez, 4 petites minutes. La sécurité, c'est important. On voit à travers les faits divers de ces derniers jours une grande violence, particulièrement chez les jeunes aujourd'hui. On parle beaucoup de faillite de l'éducation. Est-ce que là aussi, le premier pilier finalement de notre République, l'éducation, il faut le remettre d'aplomb, si j'ose dire?
Oui, oui, l'école, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a plusieurs difficultés avec l'école. C'est que... En fait, on n'a plus la volonté, je crois, de vouloir faire des gens qui sont engagés et fiers de leur pays. Et ça, ça passait par le passé, par effectivement enseigner l'histoire. D'abord l'histoire de notre pays, avant, en fait, l'histoire de notre prochain, avant l'histoire de notre lointain, hein, c'est aussi un peu ça. Donc, d'abord, à parler de l'histoire de notre pays, en parler fièrement, sans être en permanence dans le reniement. Il faut être vrai, bien sûr. Mais il faut aussi mettre les nuances nécessaires. Je pense que de plus en plus, on a diverses propagandes, à la fois peut-être à l'école et peut-être évidemment sur les réseaux sociaux. Donc ça implique qu'il faut aussi avoir justement un discours à l'école qui soit le bon et qui donne la fierté aux élèves, aux enfants d'être français. Donc ça passe pas effectivement par une vision de l'histoire, ça passe aussi peut-être par davantage d'apprentissage de la langue, par davantage d'envie de la lecture, c'est-à-dire que pour moi, le numérique à l'école, par exemple, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Je pense que si les élèves ont déjà accès au numérique de toute façon chez eux et sont déjà beaucoup sur leur téléphone portable, bah, il n'y a pas besoin que l'école se mette à la page. Il faut que l'école, au contraire, défende une autre façon de voir les choses.
Madame Belloubet a dit il y a quelques heures que finalement l'idée c'était peut-être de laisser le portable dans un casier à l'entrée de la classe pour éviter justement que les élèves l'utilisent. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ?
Oui, oui, ça c'est effectivement une bonne idée. Après, évidemment, il faut aller beaucoup plus loin et je crois que ça passe aussi par des symboles. Par exemple, nous sommes tout à fait favorables à l'uniforme parce que je crois que ça donne corps. Ça donne un esprit de groupe. Et je crois que le début du patriotisme commence un petit peu par là. Et puis effectivement, il faut que les gens se sentent bien chez eux. Il faut donner l'envie, voilà, avec la culture. Il faut aussi que l'école forme assez rapidement, c'est-à-dire des gens qui veulent pas rester... Le collège unique a peut-être été aussi un problème. Il faut peut-être pas... faut peut-être accepter le fait que... il y a différentes classes pour que les gens arrivent plus rapidement sur le marché du travail s'ils le souhaitent. Et je pense que ça peut aussi réduire certains problèmes, mais je pense qu'on n'arrivera pas à réduire la délinquance sans réduire l'immigration.
Avec aussi les problèmes communautaires hein, qui s'exportent à l'école ou qui s'importent à l'école, hein, on le voit sur les derniers faits divers quand même, des différences culturelles. Est-ce que l'école doit redevenir laïque ? Est-ce qu'elle a perdu son aspect laïque finalement ?
Oui, alors en fait effectivement, dans beaucoup de quartiers c'est difficile parce que effectivement on a une population qui est telle que dans la salle de classe, de toute façon, il y a une majorité d'élèves qui sont musulmans, etc. Donc après, ça dépend de quelle vision aussi est-ce qu'ils ont de leur propre religion. Mais il y avait des sondages qui montraient chez les jeunes que, par exemple, la place qu'occupait la charia chez ces jeunes-là, en fait, on voit qu'effectivement, chez les jeunes musulmans, il y a peut-être davantage de radicalité peut-être que chez leurs aînés. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'on sait que, évidemment, la démographie, est de leur côté et pas d'une autre.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Louis-Marie Mauduit, responsable Génération Z Bretagne, était avec nous ce matin en direct. Je l'en remercie. Il a fait beaucoup de route pour être au micro de Bretagne 5. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci de m'avoir invité.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.